Voici une question dont la réponse sera une mise en garde pour certaines personnes. Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui font du mal au peuple de Dieu? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on va apprendre des choses importantes et sérieuses au cours de l'émission aujourd'hui. On va en avoir un aperçu par les questions que voici. Est-ce qu'on peut voir des preuves que les prophéties de Dieu s'accomplissent? Dans la Bible, est-ce qu'on peut découvrir le plan de Dieu pour la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rétablira la nation d'Israël un jour? Est-ce que Dieu se sert d'autres nations pour prendre soin de son peuple? Qu'est-ce qu'il faut faire pour goûter au repos de Dieu? Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui font du mal au peuple de Dieu? Quand verrons-nous pleinement ce qu'est le repos de Dieu? Qu'est-ce que le péché? Dans son état naturel, est-ce que l'homme est capable de venir à Dieu? Restez avec nous, la parole de Dieu va nous être enseignée dans quelques secondes par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on vient à toi, unis d'un seul cœur. On est tous désireux que tu nous enseignes ta parole aujourd'hui, que tu te fasses connaître davantage, qu'on puisse mieux connaître tes désirs envers nous, pour savoir comment nous comporter sur cette terre, pour faire ce qui t'est agréable, mon Dieu. Enseigne-nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu le peuple de Dieu qui se réjouissait dans la délivrance que lui a accordée son Sauveur. Le peuple de Dieu sera caractérisé par la joie pendant le millénium. Cependant, nous avons aussi de nombreuses raisons de nous réjouir en notre Sauveur et nous devrions le louer. Un ambassadeur sans joie ne peut pas être un véritable ambassadeur du Seigneur Jésus. Nous avons aussi vu que notre salut était une personne, non une organisation religieuse ou des rituels liturgiques. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu a fait de magnifiques œuvres au moment de la création, et il fera des œuvres merveilleuses pendant le millénium, et aussi à la création des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Les prophéties accomplies ont prouvé qu'Ésaïe est un véritable prophète. Il a prophétisé le châtiment du peuple au moyen de la captivité à Babylone. Nous avons expliqué que Dieu jugerait sévèrement le monde. Certains pensent que Dieu nous aime d'un amour bonasse et qu'il nous pardonnera tout. Ce n'est pas le cas. Dieu a envoyé son Fils pour mourir à la croix, afin que nous soyons sauvés par lui. Il nous propose le pardon de nos péchés, un cœur nouveau et la réconciliation avec lui. Si nous refusons cela, dans sa justice et sa sainteté, Dieu nous jugera sévèrement. À la dernière émission, nous avons terminé avec le verset 17 qui prédisait la destruction de Babylone par les Mèdes. Cette prophétie se rapportait à un avenir rapproché du temps d'Ésaïe. Débutons notre lecture d'Ésaïe 13, lisons les versets 19 et 20. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fièvre parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. » Cette prophétie a été accomplie. Babylone était un des grands empires qui avaient existé jusque-là sur la terre. La ville était exceptionnellement splendide. Dieu l'appelle l'ornement des royaumes. Dieu détruisit la ville, et elle n'a jamais été reconstruite. Dieu a dit que Babylone ne serait plus jamais habitée. Babylone représente la confusion. Et la future Babylone sera un grand centre commercial, un centre religieux, un centre politique et le centre éducationnel du monde. Babylone sera un système mondial, administré par l'Antéchrist. Lisons Ésaïe, chapitre 13, versets 21 et 22. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Les prophéties de Dieu s'accomplissent. Les animaux du désert y prendront leur gîte. La ville, abandonnée en ruine, servira de repère à la faune du désert. En fait, en 514, Darius Hystaspe a démantelé la ville, et en 312 avant Jésus-Christ, Séleucos Ier Nicator, un général macédonien et lieutenant d'Alexandre le Grand, a hâté la décadence de la ville en se servant des matériaux de construction pour élever Séleucie, sa nouvelle capitale. Nous passons maintenant au chapitre 14, qui présente toujours l'oracle ou la prophétie prononcée sur Babylone. Tu annonces que cette ville sera jugée. Huit autres nations seront aussi jugées, et toutes ces nations ont eu des contacts avec Israël, soit parce que les pays étaient voisins d'Israël, soit à cause d'alliances politiques. Le chapitre traite de sujets sérieux dont l'origine du mal, les jugements de Dieu et l'éradication du mal sur la terre. La situation à l'époque d'Ésaïe et les événements de la période qui a suivi l'époque d'Ésaïe illustrent des thèmes universels et éternels. Si les prophéties traitent d'événements locaux qui se produiront dans un avenir rapproché, elles pointent aussi vers une période plus lointaine, soit celle de la grande tribulation et du règne millénaire. Le premier chapitre ouvre sur un ton joyeux, car il annonce le jugement de Babylone. Le royaume millénaire est établi et toute crainte et tout danger sont éradiqués. Les adversaires de Dieu sont éliminés. Le jugement de Dieu est expliqué dans ce chapitre ainsi que dans d'autres passages du livre d'Ésaïe. Nous y découvrons le plan de Dieu pour la terre entière. Ce chapitre est un mélange de lumière et de ténèbres. Ce chapitre passe de l'euphorie du royaume au châtiment de l'enfer. Satan et le problème du mal nous sont présentés. Il traite de la destruction de Babylone. Ce chapitre contenant des sujets importants se termine avec une prophétie au sujet de la Palestine, probablement faite à l'occasion du décès d'Achaz. C'est ce que nous lisons dans 2 Rois chapitre 16, les versets 19 et 20. Chers amis, débutons la lecture d'Ésaïe chapitre 14, verset 1. « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Dieu lui-même rétablira la nation d'Israël. Un reste de Jacob est revenu de la captivité et s'est réinstallé dans le pays que Dieu leur avait donné. » Par contre, cette prophétie s'applique aussi aux événements de la fin des temps, alors qu'Israël sera restauré comme nation, et c'est Dieu lui-même qui rétablira la nation. Ésaïe 14, verset 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Les rois sont comme un jet d'eau dans la main de l'Éternel. C'est ce qui s'est produit lorsque les Juifs sont revenus de la captivité. L'édit de Cyrus a ordonné au peuple de pourvoir aux besoins des Juifs, spécialement pour la construction du temple. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Citation d'Esdras, chapitre 1, versets 2 à 4. Lorsque Dieu rétablira Israël après la chute finale de Babylone, il en sera ainsi. Tout comme les Égyptiens ont contribué à la sortie d'Égypte du peuple de Dieu, et que les peuples ont contribué au retour de la captivité, les peuples contribueront au rétablissement d'Israël. Les rois sont comme un jet d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline les cœurs comme il veut, et il se sert des peuples afin de pourvoir aux besoins de son peuple. Dieu n'est jamais dépourvu face aux besoins de son peuple. Tout lui appartient, et il dispose de tout à sa guise. Le verset 3 d'Ésaïe 14. « Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. » Si nous venons à Dieu, nous goûterons son repos. Dieu donne toujours du repos aux siens lorsqu'ils viennent à lui. Pendant la période des juges, lorsque le peuple de Dieu se repentait et revenait à lui, Dieu le libérait de ses oppresseurs et il lui donnait du repos. Il a fait de même au retour de la captivité, et il fera de même lorsqu'il rétablira Israël, et que le Seigneur Jésus entreprendra le règne millénaire. Aujourd'hui, lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous donne le repos de l'âme. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Nous avons une promesse de Dieu, et elle tient encore. Si nous venons à lui, nous goûterons son repos. Dieu nous demande simplement de le croire et d'accepter son offre gratuite. Verset 4. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, « Et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. » Babylone représente les ennemis de Dieu, principalement l'Antéchrist qui siégera à Babylone. C'est pourquoi Babylone haïra Israël. Versets 5 et 6. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Dieu juge les oppresseurs de son peuple. Chaque fois que le peuple de Dieu a été opprimé, Dieu a jugé l'oppresseur. Nous voyons ici le grand jugement qui aura lieu à la fin de la grande tribulation. Le monde sera jugé. Il y a trop d'injustices sur la terre. Heureusement que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui jugera le monde, et non un ou des hommes. Le jugement se fera avec justice et sans favoritisme. N'oublions jamais que tous comparaîtront devant Dieu pour être jugés, soit pour la perdition éternelle, soit pour recevoir des récompenses pour leurs œuvres. Jésus-Christ est le chemin qui conduit au ciel. Tout autre chemin mène à la perdition. Versets 7 et 8. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Les véritables croyants, autant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, ont goûté le repos et la joie du Seigneur. Cependant, lorsque le Seigneur Jésus aura établi son royaume après la bataille d'Armageddon, nous verrons pleinement ce qu'est le repos de Dieu. Le peuple de Dieu n'aura plus d'ennemis pour le combattre. Ésaïe 14, verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs, pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, toutes les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Le mot hébreu « Sheol », traduit « séjour des morts », peut signifier une tombe ou le lieu de perdition éternelle. C'est ce deuxième sens qui est voulu par le contexte. Ésaïe 14, versets 10 et 11. Tous prennent ta parole pour te dire, « Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Dans le séjour des morts, un homme n'a plus aucune gloire. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Le roi de Babylone n'était qu'un instrument dans les mains de Satan, le prince de ce monde. C'est Satan qui est humilié par la chute de l'ancienne Babylone. Satan, ou l'Antéchrist, sera défait lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Dans la Vulgate, la traduction latine de la Bible, nous trouvons le mot Lucifer pour « astre brillant ». L'astre brillant n'est donc nul autre que Satan. Dans le chapitre 28 du prophète Ézéchiel, à partir du verset 12, nous voyons que Satan était la plus élevée des créatures de Dieu, mais il s'est rebellé contre son Créateur. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 18, le Seigneur Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, nous lisons « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 9, nous voyons ce qui est arrivé à Lucifer au tout début. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. » Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Qu'est-ce que le péché? Quel a été le péché de cet être, qui mettait le sceau à la perfection, qui était plein de sagesse et parfait en beauté? C'est ce que nous dit Ézéchiel 28, verset 12. Qu'est-ce que le péché? Quelle est, non la réponse philosophique, mais la réponse théologique, biblique, à cette question? Ésaïe 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai... semblable au Très-Haut. » Notez les cinq « je ». Suivi d'un verbe au futur dans ces deux versets. Lucifer a opposé sa volonté à celle de Dieu. Nous voyons ici le péché à l'état embryonnaire. Nous voyons l'évolution du mal. L'homme n'a pas évolué, mais le mal a évolué. Le mal a commencé par une créature qui s'est opposée à son Créateur. Lucifer pouvait exercer un libre arbitre. Si Dieu voulait être glorifié par ses créatures, il devait les créer avec la possibilité de le louer et le glorifier volontairement. Voici le péché de l'homme. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. Le meurtre est un péché, non seulement parce que Dieu l'interdit, mais parce que c'est contraire à la volonté et au caractère de Dieu. Tout ce qui est contraire au caractère et à la volonté de Dieu est un péché, qu'importe ce que c'est. Certaines personnes peuvent même déplaire à Dieu en fréquentant les réunions de leur église. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu est péché. Imaginez les petites créatures que nous sommes et qui disent à Dieu « Je ne ferai pas ce que tu me demandes. Je vais prendre mes propres décisions et faire ce que je veux. » C'est l'attitude des gens généraux de nos jours. Cependant, mes amis, en bout de ligne, c'est la volonté de Dieu qui sera faite. Les croyants devraient donc prier ainsi, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu chapitre 6, verset 10. Tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu est péché, qu'importe ce que c'est. Le péché de Satan a été un orgueil démesuré. Il ne s'est pas enivré. Il n'a pas commis de vol. Il s'est opposé à la volonté de Dieu. Il était un ange de lumière et l'étoile du matin, un être parfait. Dieu l'a créé avec un libre arbitre, et Satan pouvait choisir sa propre voie. Cependant, son orgueil l'a emporté et il s'est opposé à Dieu. Satan voulait être comme Dieu. Autrement dit, il voulait être Dieu. Il a fait passer sa volonté avant celle de Dieu. Et toute créature qui fait cela prend la place de Dieu. Suivez-vous l'exemple de Satan ou êtes-vous revenu à Dieu? De nombreuses personnes sont comme Lucifer aujourd'hui. Elles font passer leur volonté avant celle de Dieu et prennent la place de Dieu. C'est ainsi que pêche la famille humaine. Il n'y a que deux voies, celle de Dieu ou celle de l'homme. C'est ce que voulait dire Jésus lorsqu'il a affirmé « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Citation de Jean, chapitre 14, verset 6. Mes amis, vous vivez dans l'univers de Dieu. Vous respirez son air et vous jouissez de son soleil. Il ne vous envoie jamais de facture pour ces deux choses, ni pour la vie qu'il vous accorde. Vous êtes ses créatures. Vous lui devez beaucoup. Vous devez lui obéir. Dans son état naturel, l'homme est totalement incapable d'obéir à Dieu. C'est pourquoi nous devons venir à lui en passant par le Seigneur Jésus et en reconnaissant que nous sommes des pécheurs perdus. Lorsque nous le faisons, il nous donne une nouvelle nature. C'est cela, naître de nouveau. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Citation de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 19 et 20. Nous avons des natures pécheresses et nous n'aimons pas entendre la vérité. C'est pourquoi de nombreuses personnes fuient Dieu. Elles ne veulent pas délaisser leur péché. L'apôtre Jean a dit, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » L'Évangile selon Jean, chapitre 12, les versets 42 et 43. Plusieurs chefs ont compris que Jésus était le Messie promis. Ils l'ont cru avec leur intellect, mais ils n'ont pas cru du cœur. Ils ont préféré leur péché d'orgueil à Jésus-Christ. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 10. Croire du cœur, c'est aimer le Seigneur Jésus. Mes amis, vous pensez peut-être que vous n'êtes pas capable d'aimer le Seigneur Jésus. Vous avez parfaitement raison, c'est le cas. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jean chapitre 6, verset 44. Demandez à Dieu de vous attirer à lui. Lui seul peut transformer votre cœur. Jésus-Christ a dit, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean chapitre 6, verset 37. Au chapitre 9 de l'Évangile selon Marc, nous lisons au sujet d'un père qui désirait que Jésus chasse un démon de son fils. Il a dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose... » Jésus lui a répondu que tout était possible pour celui qui croit. L'homme s'est écrié, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Marc chapitre 9, verset 24. Nous pouvons tout demander à Dieu. La foi, un cœur repentant et un cœur qui l'aime. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant le prophète Ésaïe. Chapitre 14, verset 15 au chapitre 16.
Merci, Régent. Tu nous as bien expliqué ce qu'est le péché. Et je suis bien heureuse d'avoir entendu tout cet enseignement autour d'un mot que tant de gens détestent entendre de nos jours. Mes amis, je remarque depuis plusieurs années combien les gens ont horreur d'entendre ce petit mot de 5 lettres, le mot « péché ». Et pourtant, comme on l'a entendu aujourd'hui, c'est tellement important d'en connaître la signification et surtout ses conséquences pour ceux qui le pratiquent et refusent de s'en repentir. Je mentionne souvent le 3e chapitre de l'Épître aux Romains au verset 23. où Paul nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je suis tellement heureuse que Dieu m'ait fait comprendre ceci. Quand je pense que la journée où on m'a dit que j'étais une pécheresse, je me suis empressée de dire « Je fais pas ça, moi, des péchés! » Ouf, je me suis sentie tellement mal après l'avoir dit. Mais ça a été un élément déclencheur pour m'amener à la repentance. Dès que j'ai dit que je ne faisais pas de péché, je me suis sentie coupable et je remercie Dieu parce que c'est son esprit qui m'a convaincue que j'étais une pécheresse perdue. Et la même journée, à peine quelques minutes plus tard, je pouvais voir défiler devant mes yeux et devant mon cœur tout le mal que j'avais commis dans ma vie. Et j'ai compris pourquoi Jésus était venu mourir sur une croix. Ce n'était sûrement pas parce qu'il avait péché. D'ailleurs, il est le seul qui soit venu sur la terre sans jamais pécher. Voilà pourquoi il pouvait être le sacrifice parfait pour expier mes péchés et pour expier tes péchés, mon ami. Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je me suis repenti. Pour ceux qui ne le savent pas, la repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en éloigner. Mais je savais que je ne pourrais jamais m'éloigner du péché sans le secours de Dieu. Alors en sachant que Jésus avait payé ma dette en entier à la croix, je lui ai demandé de me sauver, de me donner la vie éternelle, et il l'a fait tout simplement. Alors mon ami, veux-tu recevoir ce cadeau? Veux-tu que Dieu te pardonne et qu'il te donne la vie éternelle? Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'avoir confiance en Jésus seul. Tu n'as pas besoin d'accomplir toutes sortes de bonnes œuvres pour mériter ton ciel. Jésus a payé la note en entier. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, Paul et Silas ont dit à un homme, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Alors mon ami, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Place ta confiance en Jésus seul. Repens-toi et demande à Jésus de te sauver, de venir faire sa demeure dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire maintenant? Crois-tu en Jésus? Il te dit maintenant ce qu'il a dit dans le 6e chapitre de l'Évangile de Jean au verset 47. Il dit, et c'est à toi qu'il l'a dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » As-tu remarqué qu'il dit pas « il aura peut-être la vie éternelle » mais tu l'as maintenant si tu crois en lui. Repens-toi, demande à Jésus de te sauver. Il veut que tu aies la vie éternelle maintenant, que tu commences cette vie extraordinaire dans la présence de Dieu.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau, et maintenant je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.